Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors qui dit vacances dit aussi souvent voyage, et qui dit voyage dit guide de voyage. Vous vous intéressez ce matin, Thibaut, à l'une des plus célèbres collections de guides de voyage, le guide du Routard.
Quand les charters sont arrivés, il fallait qu'il y ait un guide qui correspond à ces nouveaux besoins, une nouvelle population qui n'avait pas les moyens d'aller dans de grands hôtels, qui voyageait en autostop, en autobus, qui allait dans des auberges de jeunesse et qui avait besoin d'informations tout à fait novatrices et qui ne correspondaient pas aux grandes collections de guides culturels de l'époque. Alors que le Routard, il s'intéressait au petit bistrot en bas, demandait à Madame Intel de vous faire un souvlaki et tout. C'était très novateur.
Une interview donc du fondateur du guide du Routard à l'occasion donc de ses 40 ans en 2013. Alors avec les guides verts Michelin et les guides Lonely Planet, le guide du Routard c'est donc l'une des plus célèbres collections de guides de voyage. Comme j'ai dit, ça fait plus de 40 ans que ça dure, plus de 200 destinations explorées et plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Alors je me disais que quitte à bien déconnecter pendant les vacances, le plus simple c'était peut-être de partir à l'étranger dans une de ces destinations décrites par le guide du Routard. Puisque la grande promesse du Routard est assez simple, elle tient à son nom d'ailleurs, hein, c'est celle de la route. Le Routard fait la route, il trace sa route. Il ne se définit d'ailleurs pas par son origine ou par sa destination, mais par le voyage entre les deux. Le Routard est un homme en mouvement, et c'est pour ça que ça fait 40 ans qu'il marche, vous savez, de profil sur les couvertures des guides. Le Routard, c'est un peu le sur la route de Kerouac, mais pour tout le monde.
Mais pourquoi un Routard aurait-il besoin d'un guide ?
Ça, c'est une bonne question, Ali, et c'est toute la difficulté. Parce que suivre un guide, est-ce que ça ne serait pas prendre le risque de retomber dans des sentiers battus ? Précisément, le Routard s'invente donc comme une réaction à l'explosion du tourisme de masse, hein, le tourisme des clubs et des voyages organisés type les bronzés, hein, ou plus récemment celui qui est décrit par exemple dans le roman Plateforme de Michel Houellebecq. Et donc le guide du Routard se présente bien comme un guide de voyage et non pas comme un guide touristique. Alors si le Routard est Routard, c'est que sa conception du voyage se distingue de celle du tourisme de masse et de ses circuits validés. Alors ce n'est pas moi qui le dis, mais ça tombe bien, c'est notre invité, donc Jean-Didier Urbain, dans son formidable livre sur le tourisme qui s'intitule « L'idiot du voyage ».
Alors Thibaut, comment ne pas être l'idiot du voyage ?
Eh bien d'abord en lisant donc le livre de notre invité avant de partir, mais pour ceux qui seraient un peu pressés parce qu'ils sont déjà en salle d'embarquement, eh bien on pourrait simplement leur rappeler qu'il faut faire la différence entre le voyageur et le touriste, et que cette différence, elle tient surtout au fond à une question de regard, une question de regard sur l'étrangeté de l'étranger que l'on va visiter justement. Même à l'étranger, le touriste regarde les gens qu'il rencontre comme des étrangers, c'est sans vrai. Comprendre que à l'étranger, c'est vrai. À l'étranger, voilà, c'est lui, le touriste. Voilà, alors que le voyageur, lui, il ne l'oublie pas. Tout ça fait que le touriste n'a pas une très bonne réputation. Le touriste, c'est un peu l'anti-héros de notre modernité mondialisée, celui qui fait le tour du monde, mais sans rien vraiment voir grand-chose, puisqu'il se prend toujours au premier plan de ses photos de voyage avec ses selfies.
Alors, le Routard, c'est un touriste ou un voyageur ?
Eh ben, c'est un peu des deux, Capitaine Ali, ou du moins l'espère-t-il. Le Routard est à la fois celui qui veut conserver les valeurs du voyageur, c'est-à-dire son regard sur le monde, et en même temps celui qui a besoin d'être guidé justement pour faire le tour d'une destination. Mais en fait, le Routard, c'est aussi une sorte de promesse impossible à tenir jusqu'au bout. Impossible ou du moins très difficile, un peu comme le voyage que nous faisons dans l'existence. Nous rêvons d'une vie libre et pleine de découvertes. Et puis quand les surprises sont trop fortes, nous démissionnons de notre liberté pour s'en remettre au choix des autres et choisir par exemple le restaurant qui sera recommandé, page 67 du guide.
Le regard de Jean-Didier Urbain, l'auteur de L'idiot du voyage.
Oui, bon, écoutez, le guide a un rôle très... Bon, alors effectivement, le danger du guide touristique, c'est de normer la route, de tracer, pré-tracer, programmer le voyage, donc d'en exclure par définition l'aventure, ce qui advient, la surprise, l'étonnement, ce qui est quand même un érotisme spécifique, je veux dire que l'érotisme de la surprise...
Qui permet de se débrancher vraiment.
Qui permet de se débrancher vraiment et de ne pas être toujours pris dans une logique simplement de vérification ou de reconnaissance de ce qu'on a déjà lu. Ça, c'est le syndrome de Don Quichotte qui voyage pour vérifier si la réalité coïncide avec ce qu'il a lu dans les livres. Donc, pour échapper à ce syndrome, effectivement, éviter le guide, c'est bien. Mais enfin, Kerouac met 15 jours pour arriver au centre de Paris sans guide. Donc, parfois, ça a des inconvénients. Et puis, le guide de voyage, si vous voulez. C'est très important parce que le routard est un voyageur solitaire au départ, dans son idée. Et le guide de voyage, c'est le compagnon, comme il l'était depuis le Moyen-Âge. On voyageait avec un guide comme un compagnon, ou comme un pèlerin avec son Coran ou sa Bible, et a un compagnon dans le guide. Et donc ça, c'est quand même très positif.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, merci pour cette belle saison en votre compagnie. On se retrouve la saison prochaine. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Claire Destacan.
Je rêve d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'accoune pas. Mahbébi, fajna. Fajna, farahba. Mda'al fin, zahine.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safranés.
Oui, ne t'raconte qui ma habibi fichna. Fichna ou farahba. M'da'al fin zahine.
Je rêve d'ailleurs. Seul bagage, tes yeux pour le voyage, yeah, Gabi. De Médine à Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Medellin à Nashville, de Lisbonne. Borneo, à Mexico, je rêve d'ailleurs. Je rêve d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs et d'imprévus.
Oui, ne t'raconte pas. Ma habibi, fajna. Fajna, farahba.
Je rêve d'ailleurs, avec pour seul bagage, tes yeux pour le voyage, yeah, Gabi. De Médine à Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi. Au Népal, Medellin, à Nashville, de Lisbonne, à Vérone, Borneo, à Mexico, je rêve d'ailleurs.
Sœur, je rêve d'ailleurs.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que tu fais là?
Bah, je vais prendre une douche.
Mais il est 6h30 du mat, Alex.
Bah oui, mais c'est maintenant ou jamais. Sinon, après, tu as 3 km de queue et moi, je suis en vacances, je suis pas là pour faire du temps.
Mais on est en vacances là. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas donc que j'ai terminé là.
Bah oui, mais le loup, fallait se réveiller un petit peu plus tôt. Après, il y a un monde pas possible à la vaisselle et c'est super chiant.
C'est les vacances!
Sale.
Ben, sur le lit là. Mais t'as le temps hein.
On a le temps. Le temps de faire la queue, oui. Attends, il y a personne à cette heure-ci. Moi, j'en profite hein.
Bon, c'est bon, on peut y aller à la plage là parce que.
À quoi?
Ben, à la plage.
C'est sympa, non, moi je suis claquée, je vais me coucher là hein.
Mais c'est les vacances.
Et oui, difficile de débrancher pendant les vacances comme les deux personnages d'Un gars et une fille. Avec nous ce matin pour nous aider à débrancher, l'anthropologue Jean-Didier Urbain, le psychologue, la psychologue clinicienne Sarah Chiche et le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, notre partenaire ce matin, Julien Bisson. Alors Jean-Didier Urbain, à partir de quel moment les vacances sont-elles devenues le temps privilégié pour renouer avec soi et y mettre son quotidien à distance avec l'idée de se reconnecter à son rythme et à ses désirs.
Alors écoutez, il y a quand même un fait historique essentiel, je crois, c'est que les vacances telles qu'on les connaît ont été inventées par les Anglais et que ce phénomène est étroitement lié à l'urbanisation de la société. Donc si vous voulez, il faut savoir que la France s'est urbanisée beaucoup plus tardivement, qu'en 1862, au milieu du 19e siècle, il y avait déjà un Anglais sur deux qui vivait en ville. Il faut attendre 1932 en France pour avoir le même rapport. Si vous voulez. Et c'est pas par hasard qu'en 32, 36, c'est le Front Populaire. Enfin, c'est vraiment le moment où les vacances se posent comme problématique sociale. Comment est-ce qu'on va répondre à ce temps libre-là nécessaire à la récupération? Et donc, je dirais qu'au fond, parce que la véritable explosion des vacances, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Les premiers grands trains supplémentaires en direction de la Côte d'Azur, c'est 1949, 1950, 1951. Et que là, effectivement, on s'aperçoit que les vacances, c'est plus seulement aller à la mer pour se soigner, pour se guérir, prendre le bon air. C'est aussi pour se retrouver ensemble. Donc je dirais que ça commence au début des années 50, mais ça va aller en s'intensifiant et de plus en plus, en rappelant quand même certaines choses qui sont oubliées aujourd'hui, c'est que un Français sur deux part en vacances seulement depuis 1975. Hein ? Ils n'étaient pas légion dans les années 60, hein ? Ils étaient entre 15 et 20% seulement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à ces vacances qui sont véritablement des vacances thérapie, mais des thérapies du lien. C'est-à-dire que c'est le temps libre dans lequel je vais pouvoir retisser des liens qui sont fragilisés ou rompus ou menacés le reste du temps. Liens conjugaux, liens parentaux, liens amicaux, liens familiaux. Et là, effectivement, la plage est un laboratoire à cet égard, puisque c'est vraiment le lieu où se ressoutent tous les liens à tout niveau entre le collectif, la société et l'individuel et tous les degrés intermédiaires.
Le voyage, c'est vraiment un bon moyen pour déconnecter, renouer avec soi. Pourtant, quand on voyage, on emmène quand même son boulot, ses emmerdes, ses problèmes avec soi.
Ça, c'est un choix. Effectivement, il y a une horrible invention qui s'appelle le téléphone portable qui vient tout pourrir et qui rend
le smartphone compliqué. Surtout, parce que avec le smartphone, les courriels atterrissent sur votre téléphone.
Enfin, le principe est là. C'est-à-dire que la télématique a gagné du terrain et la télécommunication tue la communication, on le sait bien. Donc, on n'est plus jamais dans l'immédiat. On est toujours dans le média parce qu'on communique à quelqu'un qui n'est pas là. Et ça vient effectivement rendre difficile les choses. En principe, effectivement, comme le disait tout à l'heure Julien Bisson, c'est qu'effectivement on change de peau quand même quelque part, et que si on renonce à changer de peau, on emmène avec soi ses ennuis.
Oui, mais nous avons quand même du mal à paresser, à ne rien faire, même sur la plage. Difficile de ne pas vérifier ses courriels, son profil Facebook sur son smartphone. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez que on ait du mal à vraiment débrancher?
Alors, j'ai essayé d'être bref. Je pense qu'on culpabilise, effectivement, mais parce que ne serait-ce que l'histoire des vacances, c'est lié, si vous voulez. Au fond, c'est un héritage d'ancien régime, hein. L'osium, c'était le privilège des nobles, des aristocrates, le droit de ne rien faire, la société de cour, etc. Et notre société s'est construite sur la négation de l'osium, le négocium, ce qui donne négoce. La société marchande s'est construite sur la négation de l'osium. Et donc, quelque part, nous sommes toujours redevables, hein, vis-à-vis de cette négation. Et, quelque part, nous ne participons plus de la logique de la production. Donc il faut que les vacances elles-mêmes deviennent productives. Donc on doit être hyperactif en vacances pour, disons, se déculpabiliser.
Sarah Chiche.
Je crois qu'il y a aussi un paradoxe avec les smartphones. C'est qu'autant pendant l'année, il y a une mise en scène de la performance. Et pendant les vacances, on peut assister sur les réseaux sociaux, notamment, à une mise en scène du lâcher-prise. C'est-à-dire chacun va se prendre en photo sur la plage ou avec ses enfants ou faisant la cuisine ou en boîte de nuit. Regardez comme je sais bien me déconnecter. Regardez comme je fais du yoga, comme je sais méditer. Donc, je crois que vraiment, il faut savoir débrancher, se tenir loin de ces objets pour vraiment pouvoir se déconnecter.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Vous appelez de La Roche-sur-Yon, bienvenue. Alors vous, est-ce que vous arrivez, vous parvenez à vous débrancher pendant les vacances?
Bien d'abord, j'ai pas vraiment de vacances, puisque je travaille tout le temps. Je travaille tout le temps. Mais tout à l'heure, un intervenant disait que faire la cuisine, c'est des vacances. C'est ce que je me permets de faire dans le cadre de ma vie tous les jours. aller se promener ou faire la cuisine, c'est des vacances. Je n'ai jamais de vacances et pourtant je suis perpétuellement en vacances. Vous parlez tout de suite du smartphone et je complète par les nouvelles technologies. Avoir un téléphone sous la main, ça permet de répondre à n'importe quand, si on le souhaite naturellement, si on est connecté, quoi. Avoir un smartphone, c'est aussi avoir une connexion Internet, donc on peut travailler n'importe où. C'est un choix délibéré de ma part. Je ne veux pas qu'on faire focaliser sur mon exemple en particulier. Je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là, de pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand, comme ça nous plaît, gérer notre vie d'une manière différente que dans le cas d'un emploi fixe, salarié, avec des horaires réguliers. Ça permet naturellement d'être très réactif, j'insiste là-dessus sur gérer son temps, d'être tout le temps en vacances, même si on travaille, ou de tout le temps travailler quand on est en vacances.
Mais Pierre, est-ce que vous n'avez pas, Pierre,
une hygiène de vie quand même exigeante.
Pierre, est-ce que vous n'avez pas parfois la tentation de mettre votre smartphone dans un tiroir, de tout couper et de partir pendant une semaine? Est-ce que vous laissez votre smartphone à la maison?
Pas une semaine, c'est le temps d'une promenade. C'est le temps, la semaine prochaine, je serai pour 15 jours sur un festival. Donc, je vais profiter de la musique tous les après-midi, tous les soirs. Mais je serai réactif, le cas échéant, pour les clients qui me contactent, quoi.
Mais ça vous angoisse, l'idée de ne pas pouvoir décrocher, de ne pas pouvoir répondre à un courriel?
Pas du tout.
Bon.
Pas du tout. Je le fais à des heures que je prévois à l'avance, dans le cas de mon organisation. Il peut y avoir des moments d'angoisse quand justement il n'y en a pas assez, éventuellement, mais j'estime que ces nouvelles technologies sont un moyen de gérer sa vie d'abord comme on le souhaite, et puis de manière plus saine.
Mais Sarah Chiche.
Oui, je crois que ça fait appel aussi à ce que les anglo-saxons appellent le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on va checker sans arrêt son téléphone pour voir si on est toujours dans la course, si on est toujours dans le monde et dans le mouvement, en fait. Mais apparemment, ce que monsieur dit, c'est que ça valorise en lui son usage du smartphone, son autonomie.
Pierre ?
Oui, justement, quand je parle d'hygiène de vie, c'est une exigence. J'évite à tout prix de rentrer dans ce cercle vicieux. Hein. Et le téléphone, j'arrive à le décrocher si, quitte à mettre une annonce provisoire pour mes interlocuteurs. Mmh. Hein. Et ça fait 15 ans que ça dure. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. On est beaucoup à. C'est vrai que c'est une exigence parce qu'on n'est jamais vraiment en vacances, mais on est aussi perpétuellement en vacances.
Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé de La Roche-sur-Yon. Jean-Didier Urbain, il existe un jugement moral contre ceux qui ne font strictement rien pendant les vacances. Sur la plage par exemple, il est mal vu de passer pour un de ces poulets cuits en série à l'ultraviolet, pour reprendre les mots de Paul Morand. C'est mal vu de ne rien faire, le farniente. Il faut absolument vivre des vacances rentables, productives, utile.
Oui, non, mais c'est l'image même, effectivement, de la passivité, la plage. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'a dit, mais il n'y a rien à dire. Il se passe rien sur la plage. Alors qu'en fait, c'est au contraire, ça grouille de vie, il y a plein de liens, plein de choses qui se passent, des regards, des paroles échangées. C'est le moment où on lit l'horoscope ensemble, par exemple. C'est un rituel très intéressant. On pense à son avenir, enfin, au lieu d'être toujours bouffé par le présent. Bon, ce sont des moments assez fantastiques, quand même. Mais c'est vrai que quelque part, il faut toujours qu'il y ait une plus-value. Il y a une sorte d'obligation de résultat et de production. Donc, il y a une sorte de fantasme d'hyperactivité. Il faut faire du sport, il faut faire du frisbee, il faut jouer à la baballe, il faut construire des... Bon, et ça, c'est vrai que c'est une norme qui va dans le sens de la culpabilité qu'on a déjà évoquée, oui.
Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1.
Oui, le fait de faire aussi beaucoup de choses, ça me rappelle que par le passé, on allait ensuite raconter les vacances à la machine à café. Il fallait qu'on les raconte, il fallait qu'on ait des choses à raconter. Et je crois vraiment aussi que les réseaux sociaux, justement, ont encore aggravé ce sentiment. Parce que il faut qu'on ait des choses à poster sur notre compte Facebook, notre compte Instagram. Si on n'a rien à poster, si on n'a rien à raconter, c'est peut-être qu'on a raté nos vacances. Donc il y a aussi, à mon avis, la société nous enjoint à faire des choses pour ne pas être un peu...
Il faut qu'il y ait un produit dérivé des vacances qui prouve que ça n'a pas été un moment de stérilité totale.
Et Sarah Chiche, ne rien faire, ça permet quand même de prêter attention à son corps, à son environnement, à ses proches.
Oui, c'est-à-dire que ça permet effectivement de recréer du lien et d'être plus attentif à ce que d'ordinaire, pendant l'année, pris dans la course, on n'arrive pas à voir. Ça permet peut-être d'être moins aveugle. C'est l'occasion peut-être, de s'occuper davantage des autres, de réparer. Alors j'insiste, je parlais des enfants tout à l'heure, mais par exemple pour les parents qui travaillent, pour les familles monoparentales, c'est peut-être le moment de réparer ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année avec ses enfants.
Thibaut de Saint-Maurice.
En même temps, on peut peut-être essayer de prendre le contre-pied de cet éloge du ne rien faire, parce que moi je me souviens de Pascal, philosophe Pascal, qui nous disait que finalement, si les hommes étaient si agités et partaient dans tous les sens, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à rester une heure dans leur chambre sans rien faire qu'à penser à eux-mêmes. Mais parce que, en un sens, ne rien faire et penser qu'à soi, c'est aussi vertigineux. Ça peut être profondément angoissant, d'une angoisse existentielle. C'est la confrontation aussi à la misère de sa condition, comme disait Pascal. Après tout, est-ce que c'est si mal d'être actif pendant cette période-là? Peut-être le problème, c'est pas tellement entre faire et ne rien faire, mais entre faire une chose et en faire une autre. C'est-à-dire faire du contraint et choisir ce qu'on va faire.
Jean-Didier Urbain.
Oui, non, c'est tout à fait ça. Ne pas oublier d'ailleurs que ne rien faire, c'est faire rien. C'est encore faire quelque chose de toute façon. Et que, effectivement, ce qu'on ne laisse peut-être pas assez, c'est avoir ses propres activités, une autonomie d'activité. Les vacances, c'est une autonomie d'activité. C'est pas consommer des produits d'activité, mais c'est les inventer. Il y a jamais autant de bricolage que dans les résidences secondaires pendant les vacances. Les gens sont hyperactifs. Mais ça n'a rien à voir, ça n'est pas économique, ça n'est pas vendu par qui que ce soit.
Voilà, et je crois que c'est pas parce qu'on est en groupe ou en famille qu'on doit s'agréger en permanence les uns aux autres. Je crois qu'il est très important dans ce temps de vacances que chacun puisse trouver des moments rien qu'à soi, rien que pour soi, pour se reconstituer. Et ensuite, dans un deuxième mouvement, pouvoir retourner vers les autres.
Julien Bisson.
Oui, ça me rappelle, après Pascal, Jean-Jacques Rousseau, dans Les rêveries du promeneur solitaire, qui disait, je crois, que dans ses promenades, il se nourrissait de sa substance qui ne s'épuise jamais. De sa propre substance.
On va réfléchir à ça pendant le disque. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre, une fausse pub cadeau bonus de François Audouin. À tout de suite.
À lire EBI sur France Inter. I'm
Néné Chérie, Woman.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Maman, il m'a pris ma tablette.
Doucement les enfants là.
Bon maintenant vous arrêtez.
J'en peux plus.
Bon allez les enfants, on s'arrête faire une pause pipi.
On est tellement mieux.
Ah oui, on les reprendra au retour.
Vous souhaitez vraiment décrocher pendant les vacances ? Utilisez les aires d'autoroute. C'était un message de la protection routière en partenariat avec l'Association des autoroutes de France.
La fausse pub cadeau bonus de François Audouin avec les voix de François Audouin, de Sophie Hoffmann, Eric Oswald, avec la voix du jeune Victor Destacan. Avec nous à 10h43 pour nous aider à débrancher pendant les vacances, l'anthropologue Jean-Didier Urbain, la psychologue clinicienne Sarah Chiche et Julien Bisson, rédacteur en chef du hors-série du 1, notre partenaire ce matin. D'ailleurs, comment on fait pour vraiment débrancher Sarah Chiche quand on a des enfants et qu'on part en vacances? Comment on fait? Quelques pistes.
Oui, je ne sais pas si vous connaissez ce blog qui mettait en scène des photos de parents qui, à la veille de la rentrée des classes, hurlaient de joie face à leurs enfants. Effectivement, pour certains parents, les vacances, ça peut devenir un véritable enfer. Alors, quand on a la chance d'être aidé ou de partir en vacances en famille ou d'avoir les moyens de pouvoir être aidé, effectivement, c'est plus facile de déléguer. Mais comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens de se faire aider ou quand on vit tout seul avec son enfant, c'est plus difficile. Je crois qu'il faut trouver le moyen de pouvoir faire un pas de côté. C'est-à-dire, par exemple, si on a des enfants en bas âge, au moment de la sieste, on en profite pour lire un livre. On en profite pour aller nager juste à côté, non loin de. On en profite en fait pour recharger les batteries, parce que sinon ça peut devenir un enfer. Je crois aussi qu'il ne faut pas culpabiliser. Par exemple, on voit certains parents qui sur la plage peuvent culpabiliser de ne pas être à la hauteur par rapport à d'autres parents qui vont enchaîner le château dans le sable, le jeu de ballon, la nage, etc. Je crois que c'est à chacun de trouver vraiment sa temporalité, et c'est pas parce qu'on reste sur sa serviette parce qu'on est crevé qu'on est nécessairement une mauvaise mère ou un mauvais père.
Bonjour Philippe.
Bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission. Vous appelez de la Marne, où exactement ?
À Rilly-la-Montagne, près de Reims.
Alors vous, en famille, vous arrivez à débrancher pendant les vacances ? Comment vous vous y prenez ?
En fait, on a une recette. On laisse la voiture, on laisse tout derrière nous et on part à vélo à l'aventure, en France, mais dans d'autres pays européens et parfois même un peu plus loin.
Et alors, est-ce que vous laissez les smartphones à la maison ? Est-ce que vous évitez de consulter les courriels, etc. Vous y arrivez ou pas ? Et les enfants, est-ce qu'ils y arrivent ?
Ça, on y arrive assez bien finalement, parce que comme on voyage de manière complètement autonome, bivouac, on a peu d'occasion de recharger les smartphones. Donc on est obligé de fonctionner à l'économie et on s'en sert uniquement en cas d'urgence. Voilà, alors on débranche carrément par rapport au boulot. Hein. En une journée, on change de peau.
Et alors vous retrouvez des vacances basiques, c'est ça ? C'est ça l'idée ?
Oui,
chaque été ?
C'est ça qui est, bon, déjà au-delà de l'aspect sportif, balade, découverte, rencontre, approche de d'autres cultures, ce que j'adore c'est l'autonomie, et c'est-à-dire que dès le premier jour, les seuls soucis vont être de remplir sa gourde d'eau, remplir sa sacoche de nourriture, trouver sa route et trouver un endroit pour dormir en sécurité le soir. Donc on a vite fait de débrancher par rapport à ces soucis habituels, on retrouve des besoins assez primaires finalement.
Jean-Didier Urbain.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On retrouve des choses assez primaires. C'est-à-dire, Bachelard parlait du sens de la hutte. C'est le plaisir de construire sa propre maison. Et c'est vrai que quand on est en bivouac comme ça, on se nomadise aussi. Donc, on rompt avec une société de la sédentarité. Qui plus est, on rompt même avec une société de la fonction au profit d'une société de rôle. Là, on s'attribue un rôle qui rompt avec le quotidien. Et c'est ce qui rend les vacances aussi agréables. Et si les enfants sont partie prenante, c'est encore mieux.
Sarah Chiche.
Oui, il y a l'idée là de se désamarrer et d'un retour peut-être rousseauiste à un état de nature, hein, toute proportion gardée, où on s'affranchit du culturel pour se mettre en communion davantage avec les éléments naturels, quitte à avoir un peu peur parfois. Est-ce qu'on va trouver un bivouac ? Est-ce qu'on va pouvoir se loger ?
Excusez-moi, et s'ajoute aussi le fait, dans l'expérience décrite là, c'est qu'on quitte une logique sociale pour une logique tribale. On est en groupe restreint. Et donc ça, c'est aussi très particulier parce que cette tribu-là, elle n'a pas la possibilité d'exister en ville.
Julien Bisson.
Cette expérience au soïste, moi, ça me fait penser au livre de Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie, où il est parti 6 mois dans une cabane sur les rives du lac Baïkal, vous savez, et il explique au début de son livre qu'il veut y aller, il veut partir là-bas pour essayer de se rendre compte enfin, de savoir s'il a une vie intérieure ou pas. Et donc, il part pour 6 mois, et il a quelques phrases très belles, à mon avis, et qui posent bien la question de savoir si on peut débrancher. Il dit ceci: on dispose de tout ce qu'il faut lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder. Et voilà, il va essayer de savoir si pendant ces 6 mois, il va nous raconter toutes ces aventures, les difficultés qu'il va rencontrer, mais aussi la contemplation qui d'un seul coup surgit après des mois de solitude. Il a aussi cette phrase que j'aime beaucoup: entre l'envie et le regret, il y a un point qui s'appelle le présent. Il faudrait s'entraîner à y tenir en équilibre.
Et on peut s'inspirer de Sylvain Tesson tout au long de l'été. D'ailleurs, il sera à l'antenne cet été, tous les samedis à 19h. C'est un été avec Omer et on attend ça avec beaucoup d'impatience. Bonjour Louis Létoré.
Bonjour Ali.
Comment allez-vous ?
Bien, merci.
Alors vous êtes directeur de l'association La Maison de Courcelles. C'est une colonie de vacances à Saint-Loup-sur-Aujon. Alors dans cette colonie de vacances, les enfants entrent dans un nouvel espace-temps et ils ont vraiment le temps de se déconnecter, de prendre leur temps, hein, comme disait Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux.
C'est ça, même le nom exact de la colo, c'est « Je prends le temps ». C'est vrai que ce projet, il est centré sur l'enfant qui a les compétences pour organiser seul et avec d'autres ses vacances, dans un cadre et avec des moyens proposés par des adultes. Une pédagogie de la liberté, ça a été nommé par Jean-Marie Bataille, pédagogue, dans une action recherche. Et en effet, une vraie déconnexion, parce que on permet à l'enfant de s'ennuyer librement.
Comment ça se passe dans cette colo? Comment les enfants se déconnectent-ils dans votre colonie de vacances, la Maison de Courcelles?
Alors, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, en effet, déjà, on part du principe que l'enfant est en vacances. Et on va, parce qu'il est en vacances, ne pas centrer l'accueil sur l'activité. Il est en vacances, on va lui permettre de s'engager sur son temps de vacances et de respecter son rythme. Qu'ils puissent se lever quand ils veulent, qu'ils puissent manger quand ils veulent, qu'ils puissent aussi préparer ses vacances. Je vous parlais tout à l'heure de s'ennuyer librement. On le respecte selon son rythme, selon la personne, et on part du constat que ce que nous faisons en tant qu'adultes pendant nos vacances, pourquoi on ne pourrait pas le proposer aux enfants aussi? Se déconnecter de ce rythme effréné scolaire, où aujourd'hui l'ambition scolaire ne doit pas se retrouver sur le temps des loisirs.
Dans l'hebdomadaire Le 1, il y a un reportage sur votre colonie de vacances. Et il y a des enfants qui ont connu d'autres types de colos, des colos thématisés, spécialisés, où on fait de l'équitation, etc. Et ils sont assez déçus par le fait qu'il y ait des horaires très contraints, des horaires qui ressemblent un petit peu au temps de l'école.
Oui, bon, on a accueilli avec plaisir Manon Polic, journaliste pour l'hebdo Le 1, qui est venue en immersion dans cette colo pour ressentir ce qui se passait. En effet, elle a pu questionner les enfants. Mais c'est vrai que vous avez parlé de l'étymologie du mot vacances. Ne faisons pas des vacances qui ressemblent à l'école. Donc, laissons la possibilité aux enfants d'organiser leur temps de vacances, un espace-temps où ils puissent circuler librement dans une grande maison, où il y a des espaces prévus pour accueillir les enfants, autour du cirque, du bricolage, du trappeur, une salle de jeu. Mais nous n'imposons pas aux enfants un rythme qu'ils n'ont pas ressenti par eux-mêmes. Donc c'est une vraie démarche qui leur permet de déconnecter de leur quotidien.
Oui, monsieur, je trouve cette initiative tout à fait intéressante et je me demandais justement comment ça se passe au moment du coucher pour ces enfants en vacances. Est-ce que vous respectez le rythme de chacun? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui tout d'un coup ne veut pas se coucher?
Eh bien, alors ça arrive très régulièrement, parce qu'en effet, ils se lèvent quand ils veulent, ils vont se coucher quand ils veulent. Premier aspect, le rythme biologique de l'enfant. Concrètement, même quand on nous dit, attention, si les enfants vont manger quand ils le souhaitent, qu'est-ce qui se passe?
C'est l'anarchie.
Souvent, un enfant a faim, un enfant est aussi fatigué, et il y a quand même une bienveillance de l'adulte qui va quand même, à un moment donné, orienter l'enfant vers la chambre, vers un temps un petit peu plus calme. Mais il ne va pas lui imposer son heure de sommeil. Il va s'adapter aussi au projet de la journée, à ce que l'enfant va faire, et aussi au projet du lendemain, parce que les enfants, ils se projettent très rapidement sur ce qu'ils veulent faire en vacances.
J'en ai dit Urbain.
Oui, non, très, très brièvement, je pense que c'est très important de restaurer le temps de l'ennui. Parce que l'ennui, c'est le temps de l'imagination. C'est le moment où il faut effectivement se prendre en charge et essayer de remplir par soi-même les choses, alors qu'on veut toujours tout remplir avant.
Louis Détoré, nous évoquions hier les colonies de vacances qui permettent un brassage social. Pour les enfants qui fréquentent votre colo, débrancher, c'est aussi débrancher avec son milieu d'origine.
C'est ça, tout à fait. Et nous, on s'inscrit dans une volonté d'éducation populaire où on pense que les vacances doivent être encore un lieu de rencontre. On s'inscrit dans le rapport Génération Camp Colo, des séparations, rencontres et camp écolo, qui est mené par 9 chercheurs issus de plusieurs disciplines, la géographie, la pédagogie, et qui mettent cet aspect de se dire que l'écolo doit être un lieu de rencontre. Et la déconnexion sociale est un vrai enjeu aujourd'hui. Permettons la rencontre entre des enfants urbains, ruraux, issus d'univers sociaux complètement différents et peut-être de quotidiens différents aussi.
Louis Létoré, pour terminer brièvement, cette belle initiative de la maison de Courcelles est hélas menacée. L'avenir de cette colonie de vacances est compromis car les charges financières sont de plus en plus lourdes.
Alors sur de l'investissement, parce qu'on a un modèle économique qui fait qu'on se finance par les actions que nous mettons en place, mais hélas aujourd'hui on souhaite aseptiser les lieux comme les nôtres et on est obligé de mettre aux normes 1 million d'euros de mise aux normes sécurité incendie accessibilité.
Ce qui est un peu normal, mais la sécurité incendie.
C'est normal. Après c'est la brutalité de demander à une association qui a un budget de 800 000 euros de fonctionnement de mettre aux normes à cette hauteur. Et on recherche des financements privés aussi par une plateforme de financement participatif. Ça s'appelle « Mets ton grain de sel pour la maison de Courcelles ». Voilà, pour aussi...
Ouais, on mettra le lien sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Louis Létoré, directeur de l'association La Maison de Courcelles. Dans l'hebdomadaire Le 1, Jean-Didier Urbain, Jean-François Rial, le PDG du groupe Voyageurs du Monde, affirme, quand vous pensez déconnecter en vacances, vous êtes dans l'illusion. Si nous ne sommes pas capables de déconnecter en permanence, nous n'en serons pas plus capables en vacances. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est certainement pas faux pour grand nombre de personnes. Je veux dire, quand le pli est pris, il est difficile de le déplier comme ça en quelques semaines, je pense, effectivement. Tout dépend aussi ce rapport qu'on entretient avec les vacances, surtout dans notre société, où les vacances sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus courtes. Donc, effectivement, ce sont des périodes qui ne se préparent plus, au fond, quelque part, ou de moins en moins. Et ça nuit, évidemment. Et j'y pensais par rapport au thème de l'émission, et sans doute, on n'est plus dans une société du voyage-rupture. Le mythe de la rupture en a pris un sacré coup, avec effectivement les smartphones, etc. On est toujours branché, on a des cyber-vacanciers, on a une électronique embarquée hallucinante, et on peut à tout moment dire où on est. Mais c'est un petit peu, si vous voulez, comme les courses autour du monde en bateau. À une époque, Tabarly, on n'avait plus de nouvelles de lui pendant quelques jours. Maintenant, c'est impossible. On sait toujours où sont les navigateurs. On ne peut plus être seul. Donc, voilà.
Un joli courriel de Guillaume qui nous écrit. J'ai un smartphone qui commence à me peser plus qu'à me divertir. Je l'ai toujours avec moi puisque routier, il est mon GPS. Puis le soir, dans le camion, il est mon lien au monde avec Laurent Goumard et Vali. Alors, depuis 3 ans, je profite des vacances pour essayer de m'en détacher. Le week-end et pendant les vacances, je remets ma montre, ce qui m'évite de sortir mon smartphone pour connaître l'heure. Et l'été, quand je voyage à moto, je voyage seul. Je prépare un roadbook pour ne pas avoir à utiliser le GPS. J'emmène de la lecture et le soir, à part un check des mails et de Facebook, je le poste très vite. Et automatiquement, j'allonge mes durées de sommeil et améliore le repos que doivent amener les vacances. Bah, justement, à propos de lecture, Julien Bisson, on peut peut-être conseiller quelques auteurs qui peuvent nous aider à débrancher.
Quelques auteurs qui ont essayé, en tout
Peter
cas.
Peter Fromm, par exemple.
Pete Fromm qui avait publié ce livre Indian Creeks chez Gallmeister, où il raconte les 6 mois qu'il a passé. Alors lui, dans un endroit très froid, dans les Rocheuses et dans l'Idaho, où il a passé 6 mois, où il devait surveiller des œufs de saumon, parce qu'il y avait une péril sur les œufs de saumon, et pendant 6 mois, il est envoyé dans les montagnes pour surveiller des œufs de saumon. Il a passé 6 mois dans le froid, et il raconte très bien voilà comment ça se passe avec son transistor, sa chienne et son téléphone qui ne marche même pas, et ensuite toutes ces aventures. Alors si le froid vous embête un peu, moi
alors,
je vous conseille
From Indian Creek, Indian c'est Croc, chez Gallmeister
et alors ça moi par contre si vous n'avez pas le froid, vous préférez le chaud, il y a une petite pépite d'un mec qui s'appelle Tom Neal. Alors lui c'est un néo-zélandais qui a publié ce livre qui s'appelait Robinson des mers du Sud, sous-titré 6 ans sur une île déserte. C'est un livre formidable où il raconte comment, dans les années 50, il est parti s'installer sur un atoll au milieu du Pacifique. Et il va y passer en tout 6 ans dans ce livre. En tout, il y passera 16 ans de sa vie tout seul sur son atoll. Et vraiment, c'est un petit bonheur de suivre ses Robinsonades avec ses combats contre les cochons sauvages qui détruisent ses récoltes, les cyclones qui bousillent ses canalisations.
Rappelez le titre.
Alors ça s'appelle Robinson des mers du Sud, sous-titré 6 ans sur une île déserte, Tom Neal.
Et c'est écrit, oui, par Tom Neal. Un dernier conseil pour vraiment débrancher, on a encore quelques secondes. Sarah Chiche, Jean-Didier Urbain.
Moi, je dirais qu'il faut se replier, mais dans le sens où se replier en s'ouvrant aux autres, enfin, en s'ouvrant aux siens. On dit toujours se replier en famille, mais en fait, on s'ouvre aux siens. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon de se débrancher, parce qu'on redécouvre des liens qu'on a perdu de vue et qu'on va retrouver là.
Et puis surtout, ne pas galoper, flâner, ne rien faire, ne pas empiler les activités. Sarah Chiche.
Un livre, peut-être, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. C'est l'histoire d'un aide-comptable qui sort jamais de son bureau, mais c'est vraiment un voyageur immobile, c'est-à-dire qu'il va découvrir des espaces d'une vastitude absolument incroyable en lui, bouger de sa chambre ou de son bureau.
Et puis cet été, faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire le reste de l'année. Merci beaucoup Sarah Chiche, je rappelle le titre de votre ouvrage, Éthique du Mikado, Jean-Didier Urbain, je conseille très très vivement En poche sur la plage et L'idiot du voyage. Merci Julien Bisson. Le hors-série de l'hebdomadaire Le 1 est disponible en kiosque. Demain pour la dernière, quelques livres qui parlent d'amour à lire ou à relire cet été. Et vous, quels sont les livres qui parlent d'amour que vous avez envie de nous conseiller, essais, romans, BD, témoignages, grand bien vous fasse à radiofrance.com. À suivre Nagui et sa bande originale.
Grand bien vous fasse avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, la protection sociale de 4 millions de personnes. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter,
La Tête au Carré,
Mathieu Vidard.
Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, on pioche dans la famille des cétacés pour s'intéresser à la biologie et aux études scientifiques consacrées aux baleines. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs.
La Tête au Carré.
Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. France Inter, partenaire du Summer of Love à Petit Bain. Tout l'été, la barge de Petit Bain à Paris fête les 50 ans du Summer of Love et l'avènement des contre-cultures. Petit Bain place sa programmation sous le signe de l'amour et de l'utopie. Avec le 6 juillet, un concert des Pretty Things et le 8 juillet, Etipop, un rendez-vous de créateurs éco-responsables. Summer of Love, sur la barge de Petit Bain à Paris, en partenariat avec France Inter.
À la technique ce matin, il y avait Élise Christophe et Florent Yalani. Et dans quelques minutes, y a Nagui.
Bon, dit comme ça, ça donne pas envie, hein, si tu veux.
Si, il y a Nagui que j'adore.
T'as l'impression qu'il y a un bouchon sur le périph. C'est Anne-Elisabeth Lemoine, la star montante de la télévision française, qui est notre invitée.
Et comme on n'aura pas l'occasion de se faire le passage d'antenne demain, un gros bisou et de belles vacances à vous.
Ravi d'avoir partagé cette saison avec vous et on se retrouve à la rentrée.
À la rentrée, merci beaucoup Nagui. 11h30 sur France Inter. Le flash, Sébastien Hazard.
Le groupe PSA s'engage à débourser au moins 40 millions d'euros en faveur de GMS, l'équipementier automobile installé dans la Creuse. De quoi peut-être convaincre définitivement le repreneur potentiel de déposer son offre de reprise. Il attendait des garanties, notamment sur la dépollution du site. Pas d'urgence, mais le temps presse. Le tribunal de commerce de Poitiers devrait prononcer la liquidation de l'entreprise demain. Toujours pas dans les clous, le déficit de la France pourrait dépasser les 3% du PIB. La Cour des comptes doit rendre cet après-midi son audit annuel sur l'état des finances publiques. L'an prochain, pas forcément d'embellie en perspective non plus. Principale conséquence, certaines promesses de campagne devraient non pas être enterrées mais repoussées. Pas sûr que la suppression de la taxe d'habitation et la défiscalisation des heures supplémentaires soient actées rapidement. Un homme tué ce matin en Haute-Corse à Félicito. Le tireur présumé est toujours recherché, considéré comme armé et dangereux. La préfecture recommande aux habitants de la ville de rester chez eux. Une altercation, pour des raisons encore inconnues, serait à l'origine du drame. Très peu d'éléments nouveaux dans l'affaire du petit Grégory, plaide l'avocat de Muriel Boll. Sa cliente est pourtant bien transférée à Dijon pour être présentée à un juge d'instruction. Maître Jean-Paul Tessonnière affirme que les enquêteurs ont cette fois-ci mis en avant le témoignage d'un cousin éloigné, accusant bien Bernard Laroche, le beau-frère de Muriel Boll. Il y a plus de 30 ans, en 1984, lorsque